L'envie de savoir. L'entretien de la semaine.
Cette semaine, l'envie de savoir vous invite à suivre les pas d'Ulysse, héros légendaire de l'Odyssée, une épopée au fondement de notre littérature occidentale. Et si Ulysse possède des qualités exceptionnelles, il reste pourtant un héros profondément humain, faillible, orgueilleux, nostalgique, des traits qui nous éclairent sur ce qu'était le monde païen. C'est l'objet du dernier livre de Barbara Cassin, qui est l'invitée de cette semaine. Barbara Cassin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, membre de l'Académie française. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio aujourd'hui. Vous avez donc publié L'Odyssée au Louvre, un roman graphique. C'est un livre dans lequel vous explorez ce qui constitue l'identité d'Ulysse, comment cette identité elle s'est forgée, et ce qu'elle nous révèle sur l'homme grec et par extension sur l'homme tout court. Mais d'abord, Barbara Cassin, racontez-nous un peu l'histoire de ce livre, puisque tout a commencé en 2023. Vous avez été invitée par le Louvre à préparer un cycle de conférences sur l'Odyssée.
Non, pas sur l'Odyssée. J'ai été invitée à préparer un cycle de conférences, les conférences du Louvre. Il s'est trouvé que c'était le moment où la galerie Campana venait de rouvrir. La galerie Campana, c'est donc la superbe galerie des céramiques grecques. Donc, j'ai eu envie d'en profiter. C'était une occasion, un kairos, comme on dit en grec.
Et vous dites que vous y êtes allée en visiteuse, avec un regard émerveillé.
Oui, j'y suis allée en visiteuse, c'est-à-dire que ceux qui avaient tenu la chaire du Louvre avant moi étaient des spécialistes, j'allais dire, des musées. L'un était un grand directeur de musée, l'autre, Pierre Saint-Garavellou, était historien d'art, ce que je ne suis pas du tout. Et donc, il me restait à trouver ma position. Et j'ai pensé que, en visiteuse, ça me convenait parfaitement. En visiteuse, notamment de la galerie Campana.
Et oui, parce que donc, cette invitation a coïncidé, comme vous l'avez dit, avec la réouverture de cette galerie qui avait été fermée pour rénovation. Et donc, vous avez redécouvert ces vases qui, mis côte à côte, formaient un roman graphique. Vous les avez découverts, redécouverts, ces vases-là? Vous les connaissiez déjà?
On les connaît toujours et jamais tout à fait assez. Et puis, c'est pas seulement ceux-là. C'est,
oui, ce sont d'autres vases.
Tous les vases de tous les musées qui ont des collections d'antiquités. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était depuis toujours de réfléchir à la manière de mettre sous les yeux. C'est ce que dit Aristote. Il dit que les bons orateurs, que les discours mettent sous les yeux. Pro-mbatone. Et puis, bien sûr, une autre manière de mettre sous les yeux, c'est de faire des dessins, de montrer des tableaux, bon, et même de faire des expositions, ce qui est mon cas. Et donc, j'ai réfléchi à ces deux manières de mettre sous les yeux et j'ai essayé de voir comment la beauté des textes et la beauté des images coïncidaient ou ne coïncidaient pas.
Ça, on va en reparler plus tard. Mais donc, dans le cadre de cette chaire, vous avez préparé 5 conférences destinées au grand public sur notamment donc, le thème de l'Odyssée d'Homère. Et à travers cette Odyssée, vous questionnez la façon dont se définit l'identité de l'homme. Pour en parler, vous avez choisi 5 scènes tirées de l'Odyssée. Comment vous les avez choisies, ces 5 scènes? Est-ce qu'elles étaient plus importantes que d'autres scènes dans l'Odyssée?
J'avais l'impression que ça faisait un parcours. Et puis que peut-être j'avais des choses à dire là-dessus. Et donc, c'est deux raisons, si vous voulez. Mais peut-être faut-il dire que tout cela se place sous le signe de Nietzsche, philosophe et philologue, comme j'ambitionne d'être, justement, qui dit « Homère est un jugement esthétique ».
Est-ce que vous pourriez nous préciser?
Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire d'abord que Homère n'a probablement pas existé, même si tout le monde a cru qu'il y avait un Homère. Maintenant, on met Homère entre guillemets. Et c'est ce que veut dire Nietzsche. Évidemment, Homère, c'est une série de poètes, aèdes, etc. Et peut-être une muse. Bon. En tout cas, Homère, c'est le nom propre de la poésie pour les Grecs. Donc, Homère n'a probablement pas existé. Ensuite, le texte, il n'y a pas de texte princeps de l'Odyssée. C'est-à-dire que ça n'a pas arrêté d'être refait, retransmis, modifié. Peut-être la preuve la plus évidente, c'est quand on regarde la collection des universités de France, donc la collection Budé. Le traducteur, très très bon, très très intelligent, très très 1900 aussi, Victor Bérard, était d'une honnêteté absolue. Mais donc il a essayé de remettre l'Odyssée dans l'ordre. Mais quel ordre? Bon, donc il a mis plusieurs fois les mêmes passages, là où ils étaient transmis, et puis là où lui pensait que ça devait être, etc. Donc ça fait un truc absolument fantasmagorique. Donc l'ordre de l'Odyssée, le texte principe n'existe pas. Et enfin, la langue qui est parlée dans l'Odyssée, c'est-à-dire, au fond, l'invention du grec, mais est une invention très particulière. Probablement, personne n'a jamais parlé ainsi, sauf les Aèdes, justement, ceux qui chantaient, ceux qui faisaient du parler chanté.
Mais pas le peuple de
Personne, aucun grec n'a jamais parlé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des transformations dues à la versification, pour que ça colle, et puis il y a des inventions de mots terminologiques, et puis il y a aussi des termes qui viennent de dialectes différents. Enfin bon, bref, donc ni auteur, ni texte, ni langue. Tout ça fait un livre sublime qui a irrigué notre civilisation.
Et vous venez de le dire, c'est un récit qui n'est pas facile à aborder. On peut lire dans votre livre, d'ailleurs en préambule, « Homère rend fou les philologues et les traducteurs ». Mais c'est ça qui vous a aussi beaucoup séduit dans cette œuvre.
Oui, enfin c'est une œuvre princeps, hein, et donc il est indispensable, si on veut faire du grec et si on veut essayer de comprendre comment la Grèce fonctionne, ben, il faut regarder ça. Et Nietzsche est un très très bon guide. Par exemple, pas tant pour Ulysse que pour ce qu'est la Grèce, ce que sont les Grecs, ce qu'est le monde païen. Par exemple, il dit que Homère est un Grec rêvant et que tous les Grecs rêvants sont des Homères. Les dieux doublent le monde des hommes. C'est un monde de rêve qui double en beauté le monde des hommes. Donc ça, c'est déjà rien que cette idée-là, que au fond, un monde païen se caractérise par, moi je dirais la phrase suivante, celui qui arrive en face peut être un dieu. Ça change un peu le regard sur l'autre.
L'Odyssée, c'est aussi l'histoire d'une absence, l'absence d'Ulysse qui va errer pendant donc 20 ans et la quête d'un retour chez soi.
On peut dire que c'est le livre de la nostalgie, Nostos, le retour, et Algos, la souffrance, hein, les souffrances qu'on endure pour rentrer et la souffrance qu'il y a à ne pas être chez soi. Sauf que le mot de nostalgie, qui est très bien fait, qui a l'air d'être un beau mot grec, n'apparaît jamais dans l'Odyssée. Enfin, si l'Odyssée commence comme ça, muse, mets-le-moi en mots, l'homme, qui, etc. Et là apparaît qui chercha le retour, nostos, et qui souffrit beaucoup, algea. Donc les mots pour dire nostalgie sont là, mais le mot de nostalgie n'existe pas. Il a été inventé par un médecin suisse, pour que les Suisses qui avaient le mal du pays, les Suisses du pape, les Suisses du roi, la garde suisse, et qui désertaient quand ils entendaient, par exemple, dit Rousseau, le rance des vaches, eh bien, ils désertaient pour rentrer chez eux. Seulement, on n'avait pas envie vraiment de les mettre à mort comme déserteurs, donc on les a qualifiés de malades. Et on a trouvé une maladie, la nostalgie.
Alors, on va rentrer dans le cœur du sujet. Vous commencez ce livre avec une scène bien connue, Ulysse et Calypso. Alors, Calypso, c'est une nymphe, une figure assez ambivalente dans l'Odyssée. Elle va recueillir Ulysse sur son île paradisiaque. Elle va prendre soin de lui, elle va tomber amoureuse d'Ulysse aussi. Il va rester 7 années auprès d'elle. Alors, il pourrait avoir la tentation comme ça de rester toute sa vie auprès d'elle. Non, il va refuser, il va choisir de revenir chez lui, à Ithaque, et d'être mortel. Oui. Pourquoi avoir choisi cette première scène avec Calypso ?
Eh bien parce que la première caractéristique d'un homme, c'est d'être mortel. Et donc, si je choisis des scènes clés de l'identité d'Ulysse, sa première identité d'homme, d'humain, c'est d'être mortel. Et il sait ce que ça veut dire, parce qu'avant d'aller chez Calypso, il a été aux enfers.
C'est
l'un des seuls mortels qui est revenu des enfers. Et il a vu, là-bas, ce que c'était que le royaume des ombres. Par exemple, il a rencontré sa mère qui lui a expliqué comment la chair ne tenait plus au corps, etc., comment il n'y avait plus rien. Et il a rencontré Achille qui lui a dit « Moi, j'aimerais mieux être valet de bœuf chez un paysan et n'avoir même pas de quoi manger plutôt que d'être roi dans ce royaume des morts ». Donc c'est très fort. Et dans ce livre, ce qui m'a beaucoup attiré, beaucoup plu, c'est qu'au fond, j'ai fait ce que j'ai voulu. C'est-à-dire que j'ai été d'une liberté, grâce aussi à mes éditeurs, d'une liberté totale. Et j'ai pu, par exemple, mettre côte à côte une scène aux enfers, sur les vases, c'est-à-dire avec Caron, avec le chien, et une œuvre contemporaine de Cy Twombly, qui montre l'âme d'Achille, de Patrocle, d'Ulysse. Mmh. Et cette âme, c'est rien. C'est une tache de couleur un peu profuse, comme ça. Et la dernière, c'est une tache grise. Bon, eh bien, c'est exactement ça. Le royaume des ombres, jamais personne ne l'a aussi bien vu que Cy Twombly. Donc, ce que j'aime dans ce livre, c'est que j'ai pu faire des énormes sauts, à la fois en géographie et en histoire. Voilà.
Il y a une autre dimension de l'identité d'Ulysse que vous explorez, c'est son nom, la façon dont il se nomme et dont il ne se nomme pas. Pour comprendre ça, il faut relire l'épisode avec Polyphème, fils de Poséidon, qui est donc un cyclope assez peu hospitalier envers Ulysse et ses compagnons.
Oui, il les mange. C'est un cyclope anthropophage. Et c'est ce qu'on peut imaginer de pire en Grèce, c'est-à-dire de plus inhospitalier, bien sûr, alors que la Grèce tout entière est fondée sur le devoir d'hospitalité. Donc là, quand les Grecs abordent dans l'île du Cyclope, d'abord ils rentrent dans son antre, dans sa grotte, et puis ils voient des fromages bien rangés, etc. Ils se disent « bon, voilà ». Et puis en fait, quand le Cyclope arrive, il commence à en manger un, et puis il va en manger d'autres. Il demande à Ulysse « Comment tu t'appelles ?» Et alors Ulysse lui dit « Je me nomme personne, Outis », qui veut dire « personne » ou la négation, « non, ne pas », et « tis », quelqu'un. « Je me nomme personne ». Et à partir de là, tout va s'enclencher sur la nomination et sur ce que c'est que... Alors, je vais avoir recours à un terme qu'on utilise beaucoup plus aujourd'hui, mais qui était aussi un terme stoïcien, par exemple. Le signifiant. Ce que c'est qu'un signifiant, c'est-à-dire un son équivoque. La psychanalyse se sert beaucoup de ce concept. Donc, Ulysse dit « je me nomme personne ». Et puis, arrive le moment où, pour se sortir de ce mauvais pas et ne pas se faire tous dévorer, Ulysse a une idée. Il fait chauffer un pieu à rouge et puis ils vont enivrer le cyclope et l'aveugler, enfoncer le pieu dans son œil. Mais il reste encore un problème, c'est qu'il faut sortir.
Oui,
il faut sortir de la grotte alors que le cyclope a poussé un énorme rocher devant l'entrée. Là, Ulysse ruse. Il a comme idée de faire accrocher tous ses compagnons aux brebis et aux béliers et de les faire sortir ainsi. Le cyclope est aveugle, mais c'est un bon berger, il sait que ses bêtes ont besoin de sortir, donc il va pousser le rocher et les faire sortir. Mais si les Grecs sont accrochés sous le ventre de chacune des brebis et de chacun des béliers, alors il a beau tâter, il ne va pas les trouver. Donc c'est comme ça que les Grecs sortent. Ça, c'est la ruse d'Ulysse. Et quand Ulysse s'éloigne sur son bateau avec ses compagnons, il ne peut pas s'empêcher de dire au cyclope « Ah ah, je t'ai bien eu, c'est Ulysse, fils de Laërte, qui a rusé. Et c'est ma ruse, ma sagesse rusée qui t'a eu. » Et la sagesse rusée, ça se dit « métis », c'est-à-dire comme « outis », où c'est « pas quelqu'un » et « métis », c'est « surtout pas quelqu'un ». Sauf que ça veut aussi dire « la ruse. C'est donc, vous voyez, un premier jeu sur le signifiant. Et il faut savoir, je ne l'ai pas encore dit, que quand le cyclope hurle et ameute ses compagnons cyclopes qui sont avoisinants, les cyclopes lui disent « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Il y a quelqu'un qui t'a fait du mal ?» Et alors, le cyclope Polyphème répond « Personne !» Et donc les autres disent « Bah écoute, si c'est personne, va te coucher, t'as fait un mauvais rêve, c'est pas grave. » Donc le nom de personne, Outis, et la ruse d'Ulysse, Métis, ne font qu'un dans cette espèce de joute verbale, d'invention verbale, qui est justement le rapport au signifiant.
Et cet épisode montre toute l'ingéniosité de la langue grecque, de ses sons, de ses signifiants. Mais l'ingéniosité de ce jeu de mots, ça, c'est plus difficile à représenter sur un vase en céramique. Comment cet épisode a été mis en image dans l'art, j'imagine?
Justement, pas outis métis. Le signifiant n'est pas visible. Ce qui est visible et répété partout et dans toute la Méditerranée, c'est le cyclope en train d'être aveuglé, les compagnons et Ulysse en train de s'échapper sous les brebis. Voilà. Jamais, évidemment, le son. Le son, outis métis.
Alors, troisième scène abordée dans ce livre qui nous éclaire sur l'identité d'Ulysse, c'est le chant des sirènes. Dans cet épisode, c'est l'identité à soi qui est en jeu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le chant des sirènes, c'est un flashback dans l'histoire de l'Odyssée?
Dans tout ça, l'ordre est très compliqué, hein, l'ordre des scènes. Mais le chant des sirènes, c'est un moment que Circé avait expliqué à Ulysse. Ulysse était chez la magicienne Circé, qui transformait les hommes en cochons. Il était devenu l'amant de Circé, et Circé lui avait expliqué ce qui allait lui arriver avec les sirènes. Et Circé lui avait dit « Tu boucheras les oreilles de tes rameurs, et toi, tu te feras attacher au mât, pour ne pas sauter à la mer, comme font tous les marins, qui sont envoûtés par le chant des sirènes et qui pourrissent dans leur île. » Donc, c'est ce qui s'est passé. Les sirènes chantent. Viens ici, Ulysse, t'en vanter, honneur de l'Achaïe, nous allons te dire tout ce qui s'est passé sur la terre féconde, etc.
Ce qui sait déjà, Ulysse.
Voilà, le chant des sirènes est peut-être très beau, mais en fin de compte, il n'apprendrait rien à Ulysse. Mais enfin, il n'apprendrait rien, sauf que Ulysse s'entendrait dire ce qu'il est par quelqu'un d'autre. Et au fond, il aurait une assignation à son identité. Et les sirènes, c'est bien ça. C'est l'assignation d'identité sur un vase, qu'on voit d'ailleurs au Louvre. Il y a sur le col d'un vase une sirène, c'est-à-dire un oiseau, puisque les sirènes étaient des oiseaux, un oiseau noir, assez maléfique, qui dit « Seirenaimi, je suis la sirène ». Autrement dit, c'est bien d'identité qu'il s'agit. Et avec le chant des sirènes, Ulysse, au fond, est assigné à son identité. Quand il passe attaché au mât, il y a là une séquence verbale très belle où on dit qu'il est empédon.
Qu'est-ce que ça signifie? C'est un mot important pour vous.
C'est un mot important dans l'Odyssée. Empédon, c'est M, dans, pédon, le sol, ça vient de pouce, podos, hein. Donc, il est les pieds solidement plantés dans le sol. C'est comme ça qu'on traduit. Le sol, en l'occurrence, c'est le sol du navire. Il est empédon. Mais empédon, c'est un mot qu'on a déjà trouvé au début de l'Odyssée, lorsque Ulysse était chez Calypso. Et il était empédon, là-bas. C'est-à-dire qu'elle l'aimait, il l'aimait pendant 7 ans quand même. Et puis, il était bloqué là, empédon. Et on le retrouve à la fin de l'Odyssée.
Au retour.
Oui, lorsqu'il voit Pénélope. Donc on en parlera sûrement.
Oui.
Donc cet empédon-là, celui des sirènes, celui de Ulysse attaché au mât pour passer au large des sirènes, m'a paru absolument crucial. Pourquoi? Eh bien parce que les mots qui servent à décrire Ulysse attaché au mât, ce sont les mots que Parménide, le philosophe, le premier présocratique, le philosophe que Heidegger estime comme le plus important, tel que ce qu'il a écrit puisse suffire et qu'on puisse brûler toutes les bibliothèques.
Tous les autres livres.
Oui, il faut lire le poème de Parménide sur l'être ou sur la nature. C'est comme ça qu'il s'intitule. Moi, je l'ai beaucoup travaillé, je l'ai traduit. J'ai traduit aussi celui qui le met en ironie, c'est-à-dire Gorgias, le sophiste Gorgias, qui parle sur le non-être ou sur la nature. En tout cas, là, dans le poème de Parménide, lorsque Parménide décrit l'être comme une sphère, la sphère de l'être, il a les mêmes mots que Homère, entre guillemets, pour décrire Ulysse. Il dit, cette sphère, elle est empédon, et elle est aussi enserrée dans la limite de liens puissants. Elle est identique à elle-même. Bon. Autrement dit, cette scène montre que, au fond, ce qu'il y a sous le héros de la philosophie, l'être, c'est le héros de l'épopée, Ulysse. Et ça, c'est extraordinaire.
Et ce poème de Parménide est arrivé bien plus tard.
Cinq siècles.
Cinq siècles après.
Oui.
À ce stade, nous avons défini Ulysse par sa mortalité, par la façon dont il se nomme, son identité à lui-même. On n'a pas encore parlé de la puissance du parler, du discours. Ça, c'est un trait aussi, un autre trait constitutif d'Ulysse. Vous en parlez à travers notamment l'épisode de Nausicaa,
oui.
La fille du roi Alcinous. Cette jeune femme est touchée par le discours d'Ulysse et grâce à cette éloquence, elle va choisir de l'aider.
Oui, c'est très précis en fait. Donc Ulysse, tous ses compagnons se sont noyés. Il a échoué sans se noyer lui, parce qu'il tenait un bout de bois. Etc. Il a échoué au rivage des Phéaciens. Il est là, donc, étendu sur une grève, très sale. Il s'endort d'épuisement. Et il est réveillé par un ballon qui lui tombe plus ou moins dessus. Et en fait, c'est des jeunes filles qui jouent au ballon. Donc il se réveille, il les regarde, il se dresse, et elles s'enfuient toutes, sauf une. Et celle qui ne s'enfuit pas, c'est la fille du roi, c'est Nausicaa. Lui se dresse devant elle, il est tout nu, donc comme dit Bérard, il coupe une branche, une petite branche, pour en voiler sa virilité, et puis il lui parle. Et normalement, quand un suppliant veut se faire aider, il prend les genoux de la personne d'en face, de la personne qu'il supplie. Et les genoux, c'est très important. Gonu, c'est le même radical que gignestai, c'est-à-dire naître. Donc, les genoux, c'est aussi une puissance d'engendrement. Donc, normalement, on saisit au genou la personne qu'on supplie. Quand on peut aussi, on lui attrape le menton. Et puis là, il ne vous arrive plus rien. On vous protège. Vous demandez protection. Eh bien, là, Ulysse ne va pas prendre cette jeune fille, lui tout nu et moche, ignoble. Il ne va pas la saisir au genou. Donc il lui parle et il invente ce que j'appelle, ce qui s'appelle le performatif. C'est-à-dire qu'en dire, c'est vraiment faire. Il lui dit « je te genouille ». Il invente le verbe, enfin, c'est « je te prends les genoux » si vous voulez, mais il invente le verbe « genouiller » qui n'existe pratiquement pas en grec. C'est un apax, en tout cas dans l'Odyssée. « Je te genouille ». Et ça continue, tu es belle comme le jeune fût d'un palmier, bon, je te crains, j'ai trop peur. Et parmi les phrases qu'il lui dit, il lui dit, car j'ai trop peur de te prendre les genoux. Donc je te dis, je te genouille. Il invente, dit Homère, enfin, ce discours qui gagne, ce discours plein de gains, kerdion, ce discours qui gagne, qui est un discours qui fait, et qui fait dire, c'est faire à ce moment-là. Donc il lui dit « je te genouille, car j'ai trop peur de te prendre les genoux ».
Un discours qui a une action directe. Alors là, nous arrivons presque au terme de cette épopée, de cette quête identitaire. Il reste une dernière chose. On est soi-même, que si l'on est reconnu aussi, reconnu notamment par ses proches. Et on arrive donc à cette scène du retour où Ulysse retrouve sa Pénélope après 20 ans d'errance. Et cette Pénélope, elle a du mal à le reconnaître. Son chien reconnaît Ulysse avant Pénélope.
Oui, il y a de quoi. Parce que Ulysse n'a peut-être pas changé d'odeur pour son chien Argos,
non,
qui tombe mort sur son tas de fumier dès qu'il sent, dès qu'il noeille. C'est très beau, noeille. Hein. C'est un verbe qui veut dire en même temps à la fois sentir avec le nez, ça donne par exemple schnouf, vous voyez, noeille. Mais c'est noesis, noeseos, le nous, c'est l'esprit, c'est l'intuition divine. Donc c'est un verbe très fort, hein, et c'est un terme très fort. Le chien noeille Ulysse et tombe mort sur son tas de fumier. Bon, Ulysse a été reconnu avant, il s'est fait reconnaître lorsqu'il a débarqué à Ithaque, dans Ithaque, qu'il ne reconnaissait pas d'ailleurs, il ne reconnaissait pas son île. Il est allé chez le porcher Eumée, et là, il s'est fait reconnaître. Dès qu'Ulysse prend un bain, il s'arrange, hein, parce que Athéna verse sur sa tête la charisse, la grâce, et alors il retrouve sa majesté, il retrouve quelque chose de sa beauté. Par exemple, son fils, Télémaque, qui arrive chez le porcher Eumée, au début, ne le reconnaissait pas. Il voyait un vieux couvert de loques. Et puis, après le bain, il le retrouve et dit « Mais je ne comprends pas, maintenant tu ressembles au dieu des champs du ciel. » Bon, effectivement, cette transformation-là est très constante dans l'Odyssée. Donc, Ulysse arrive chez lui, vraiment, à Ithaque et dans sa maison, dans son palais, qui est squatté, si j'ose dire, par tous les prétendants de Pénélope, qui sont là à se goberger, à coucher avec les servantes et à manger son bien. Pénélope, qui les refuse avec sa superbe ruse d'étisser la nuit ce qu'elle a tissé le jour, en disant qu'il fallait attendre que la pièce de toile soit finie, puisque ça devait servir de linceul à son beau-père, Laërte. Bon. Elle doit quand même se décider maintenant, parce que son fils a de la barbe au menton. Voilà, il est élevé, et Télémaque est maintenant un homme, et donc elle doit choisir un homme pour elle. Alors, Ulysse ne se fait pas reconnaître d'abord. Quand il arrive et qu'il voit d'abord Pénélope, il est toujours comme un vieux couvert de loques. Et il n'arrête pas de lui mentir.
Oui, il ne lui dit pas la vérité.
Ah non, mais Ulysse ment tout le temps. C'est du pseudos. Hein. Ulysse, c'est le champion du pseudos. C'est-à-dire mensonge, fiction, invention, tromperie, erreur. Bon. Donc Ulysse est le champion du pseudos et il lui ment en lui disant « Oui, t'inquiète pas. Enfin, oui, c'est vrai, Ulysse va revenir. »
Je l'ai croisé.
D'ailleurs, il m'a donné cette épingle que tu vois là pour fermer mon manteau. Il me l'a donné. Bon, il va revenir. Il s'installe. Pénélope lui donne l'hospitalité, comme toute bonne grecque. Elle lui donne l'hospitalité et il l'entend pleurer, gémir la nuit en appelant Ulysse. Elle sent qu'il se passe quelque chose, mais bon, lui ne se précipite pas. Ça fait 20 ans qu'il ne l'a pas vu. Il ne la prend pas dans ses bras en disant « c'est moi ». Non, pas du tout. Donc, on comprend que, d'une part, il ait besoin de ça pour pouvoir massacrer les prétendants, pendre les servantes et faire ce qu'il a à faire pour récupérer son trône. Mais quand même, c'est très gonflé. C'est quand même très, très violent de ne pas sauter dans les bras de sa femme qu'il n'a pas vue depuis 20 ans. Donc, là, une fois qu'Ulysse a fait tout ce qu'il avait à faire, qu'il a pris un bain, il s'assied en face d'elle et elle ne le reconnaît toujours pas. Et alors, il se met à lui dire bon, « Femme, tu as un poumon de fer, j'ai jamais vu une femme aussi dure que toi, c'est pas possible, enfin, tu ne me reconnais pas, et bien, tu ne me reconnais pas, c'est terrible, mais c'est comme ça. » Et Pénélope, à ce moment-là, dit à la servante, à la nourrice, « Oh, bon, allez, c'est lui, va préparer notre lit, va dresser le lit, mets les sangles, mets les toiles, etc. » Et Ulysse bondit en disant « Femme, qui donc a déplacé mon lit ?» Et à ce moment-là, elle lui saute dans les bras en disant « Ah, c'est toi !»
Parce qu'il partageait un secret, frère.
Voilà, le secret partagé, qui est Empédon, le signe Empédon, bien planté, c'est que le lit est Empédon, c'est-à-dire qu'il est planté dans le sol. Et leur lit conjugal était, et eux seuls le savaient, eux deux, leur lit conjugal est un lit creusé dans un olivier encore en terre. Donc Ulysse a creusé cet olivier magnifique, il l'a élagué, il a creusé le lit dedans, autour du lit il a construit la chambre, autour de la chambre il a fait le palais, et voilà, c'est ça un lit conjugal. C'est un lit Empédon, planté là, et à jamais. Donc, quand il lui dit « Mais qui donc a déplacé mon lit? As-tu bien dit ce mot qui me torture ?» Elle lui dit « Bah oui, c'est toi. »
C'est le signe de la reconnaissance. Alors, comment on pourrait résumer en quelques mots, ce n'est pas facile, cette identité d'Ulysse? Qui est Ulysse au fond?
Alors, si on se demande à la fin qui est Ulysse, ben justement, l'éventail est très vaste. Quand on lit Horkheimer et Adorno, ils disent que c'est le prototype de l'individu bourgeois. Et c'est pas faux. Il n'arrête pas de vouloir amasser du gain. D'ailleurs, son discours est un discours qui gagne. Et il y a un tableau de Magritte qui dit ça extraordinairement, où Ulysse est il rame sur un bateau qui est lui-même, la mer n'est pas du tout la mer. La mer, c'est un tapis, un espèce de tapis blanc dans une chambre d'hôtel. Et il s'évertue à ramer. Bon, il rentre chez lui, quoi. Vous avez bien vu, M. Pédone, il est évidemment pris dans le conjugal, pris dans le gain, pris dans le retour. Bon, un prototype de l'individu bourgeois. Et puis, on peut dire aussi que c'est celui qui n'arrête pas de repartir. Et la nostalgie, il y a au moins deux mots pour le dire. Il y a Heimweh, deux mots allemands. Heimweh, c'est home sweet home, c'est rentrer chez soi. Donc ça serait l'individu bourgeois, si vous voulez. Et puis il y a Sehnsucht, c'est l'aspiration vers l'ailleurs. Et Ulysse, il est pris entre les deux. Et on le voit dans les vases et par exemple aussi le visage d'Ulysse dans le groupe de la grotte de Tibère, qui est absolument un visage sublime, où il regarde vraiment ailleurs. Et quand il rentre, Ulysse doit repartir jusqu'à l'extrême ailleurs, jusqu'à un pays où on ne connaisse plus la mer et où il croisera quelqu'un qui lui dise « Étranger, alors qu'il a une rame sur l'épaule, quelle est cette pelle à grain sur ta brillante épaule ?» Et ainsi, il plantera sa rame en terre dans un lieu où personne ne sait ce que c'est que la mer et Poséidon se calmera pour de bon.
Vous concluez par cette phrase. Au terme de ces conférences du Louvre, j'ai cru voir comment nous étions grecs. Qu'est-ce que peut nous apprendre l'Odyssée sur nous-mêmes ?
Mais beaucoup de choses. D'abord, notre rapport au monde. Ce monde grec, s'il est si fascinant, c'est que c'est un cosmos. Cosmos, ça veut dire à la fois... Vous voyez, ça a donné en français cosmologie et cosmétique. C'est de l'ordre et de la beauté. Et donc, ce monde est un monde qui s'ordonne en beauté. Et les hommes, les dieux, les animaux, les plantes sont en harmonie. Ça nous donne la conscience de cette harmonie. Et la conscience de cette harmonie avec les dieux. C'est-à-dire que moi, si j'étais quelque chose, je serais bien païenne. Lorsque René Char dit par exemple « Nous ne jalousons pas les dieux, mais nous nous émouvons d'être de leur élevage multiple ». Lorsque cesse leur souvenir, je trouve que c'est assez juste. Pour moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Donc, voilà, nous sommes dans un monde où les dieux sont au fond, il n'y a pas un dieu, mais des dieux, au fond, qui constituent la doublure du monde, la doublure de rêve du monde, pour que le monde soit beau. Au fond, c'est une leçon de beauté que cette incursion dans la Grèce. Et je dirais même que c'est peut-être ce qui résiste à la douleur du monde, au malheur du monde. Je me suis vraiment demandé, quand je faisais ces conférences, au moment où il y avait la guerre en Ukraine, au moment où les gens mouraient en Méditerranée, au moment où Gaza succombait sous les bombes, je me suis demandé si j'étais pas folle de faire ça. Et en fait, je me dis qu'il n'y a peut-être pas d'autre résistance solide que celle de la conscience de l'unité du monde. Et de cette conscience, peut-être que cette conscience, on ne l'a vraiment que dans la beauté. Donc, je me suis dit que j'étais pas si folle que ça.
Vous dites qu'Homère est un auteur qui a transformé votre vie. Alors, pour ceux qui veulent découvrir ou redécouvrir l'Odyssée, est-ce qu'il y a une édition que vous conseillez
pour le lire en français?
Oui.
Oui, je conseille l'édition de poche de la traduction de Bérard, qui a été... faite de manière à enlever toutes les redites, toutes les difficultés que Bérard a emmagasinées, et donc qui se lit en continu. Je la trouve très bien. C'est pour moi la plus belle traduction, en sachant que c'est une traduction, comment dirais-je, oui, très 1900. Mais
très
que justement, elle a une beauté, une sérénité et une intelligence que je ne trouve pas forcément dans les autres.
On mettra le lien sur la page de l'émission. Un mot sur le Louvre. Vous avez un attachement très profond à ce musée. C'est là-bas que vous avez reçu votre épée d'académicienne, c'est ça ?
Oui.
Dans quelle salle ?
La salle des Cariatides, donc celle où il y a la salle grecque par excellence. Mmh. Oui.
J'en reviens au livre. Merci beaucoup, Barbara Cassin. Peut-être un mot sur ce format-là, enfin sur la façon dont il a été fait. Vous l'avez développé avec... Pierre Giner.
Oui.
Peut-être un mot, parce que l'objet est très très beau, et comme vous l'avez cité, il y a non seulement un texte très savant, mais des peintures contemporaines,
oui.
Comme Saïd Tombi qu'on a cité. Comment vous l'avez développé, ce livre ?
On a commencé à travailler ensemble pour les conférences.
Mm-hmm.
Et donc, c'est tout naturellement que ce livre en est sorti. J'ai été très heureuse et de travailler avec Pierre Giner et de travailler avec les éditeurs, Le Louvre et Flammarion, parce que ils ont fait tout ce que j'ai voulu, en fait. Et ils nous ont, enfin, Pierre Giner et moi, on a inventé ensemble, on a co-inventé une forme qui, je crois, n'existait pas tout à fait.
Non.
Et en tout cas, pour moi, il était indispensable d'avoir du contemporain avec de l'antique. Et alors, ce livre est fabriqué d'une manière un peu étrange, c'est-à-dire que j'ai donc 5 conférences avec des œuvres et des textes essentiels au début de chaque conférence. Et puis à la fin, il y a ce que j'ai appelé le roman graphique de l'Antiquité, qui est le roman graphique de l'Odyssée seulement, hein, qui est composé de toutes les images que j'ai trouvées pertinentes sur l'Odyssée, pas seulement au musée du Louvre, mais dans tous les musées.
On le recommande, je redis le titre du livre, L'Odyssée au Louvre, un roman graphique. Et c'est à retrouver aux éditions Flammarion. Merci beaucoup, Barbara Gassin.
Merci à vous.
Canal Académie.